Je vous invite à prier pour recevoir la parole du Seigneur ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur, que nous puissions la recevoir dans un cœur prêt à le mettre en pratique. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Et cette parole, Seigneur, elle demeurera jusqu'à la fin parce que, Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Et nous voulons te bénir, parce que tu nous l'as laissé, tu nous l'as donné, et nous pouvons, Seigneur, revenir sans arrêt cette parole, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous console, qui nous renouvelle, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous enseigne, Seigneur. Et comme ce matin, nous demandons ton esprit pour qu'elle puisse, Seigneur, nous fortifier encore. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va reprendre Matthieu 22, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 22, et au verset 40. Évangile de Matthieu, chapitre 22, 40. Voilà, nous sommes là, comme très souvent dans l'évangile, Jésus qui est confronté aux gens religieux, qui sont représentés par les pharisiens ou les sadducéens, les gardiens du temple ou ceux qui enseignent la parole comme les pharisiens. Donc les pharisiens, verset 34, il dit, apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ces deux groupes de personnes ne pouvaient pas s'entendre, hein, ils étaient tous des gens religieux, mais voilà, ils avaient des conceptions différentes sur la Bible. Et voilà, donc ils étaient impressionnés que Jésus réduise au silence les sadducéens. Donc ils se rassemblèrent, et vous savez, c'est un peu comme un joute, hein, chacun cherchait à coincer Jésus. Donc ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Voyez-vous, ce petit mot, mettre à l'épreuve, ça montre l'intention dans laquelle la question était posée. C'était pas une question pour avoir une réponse, c'était pour essayer de le coincer. Voilà, alors la question c'est, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Intéressant. Quand vous voyez que la loi, rien que dans la Bible, si vous lisez Lévitique, enfin toute les cinq premiers livres, ensuite après le Deutéronome, la deuxième loi qui est reprise, c'est des livres entiers qui parlent de la loi. Donc, voilà, il voulait coincer en disant, Seigneur, dis-nous le plus grand. Voilà, il voulait obliger Jésus à donner le plus grand. Et Jésus, bien sûr, ne s'est pas laissé démonter, et il répondit. Verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, là, on a un résumé du résumé du résumé. Hein, parce que, voilà, à cette question, Jésus répond, mais nous donne aussi des clés. Hein, c'est la clé qui résume toute la loi. Or, la loi, c'est quoi ? Bien sûr, nous avons l'habitude depuis la réforme d'insister sur la grâce, hein, que la grâce est venue par Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse. Mais ça, c'est une explication théologique pour montrer que le salut ne vient pas de nos efforts. Nous ne pourrons pas par des efforts nous sauver. Donc la grâce nous est là parce que Dieu a décidé de nous sauver sans que nous intervenions. Voilà, c'est un cadeau. La grâce est un cadeau. On a reçu un cadeau. Le salut en Jésus-Christ est un cadeau. Amen. Dis à ton voisin, c'est un cadeau. Hein? Voilà. Donc ça, c'est la grâce, le cadeau. Voilà. Mais, ça n'explique pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne par la loi. Voyez-vous ? La loi, elle n'est pas effacée par la grâce. c'est par la loi. Et un théologien disait, je ne sais plus lequel, un grand théologien, c'est que Dieu règne par ses lois. Il gouverne par ses lois. C'est grâce à des lois, aujourd'hui, que la science peut avoir une telle efficacité. Parce que le modèle scientifique qui se base sur l'observation des lois physiques, qui permettent ensuite après de faire quelque chose, de faire du matériel suivant des lois. Et on est sûr que ça marche toujours pareil. Moi, j'aime pas trop l'informatique, parce que c'est pas une loi, c'est une conception d'un logiciel fait par des hommes, et très souvent, il y a des bugs, ou des gens qui conçoivent, qui pensent pas à l'utilisateur. Donc, par exemple, mon GPS, plus celui-là maintenant, parce que c'est le dernier modèle de Peugeot, mais était tellement dingue que j'ai demandé à mon fils qui est informaticien, tiens, occupe-toi, explique-moi comment ça marche. Il a fait 3 heures, il a toujours pas trouvé. Il a dit, ouais, t'as raison. Voilà. Donc, vous voyez, l'informatique, c'est des gens qui conçoivent, mais il n'y a que des bugs. Mais les lois de Dieu, elles sont parfaites. Heureusement, parce que sinon, ça fait longtemps que la Terre n'existerait plus. S'il y a les lois des corps célestes, etc., ça nous permet de faire des satellites qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les nouvelles technologies. Parce qu'il y a des lois. Et quand on connaît ces lois, eh bien, on peut s'y conformer. Et quand on s'y conforme, eh bien, on a les résultats qu'on connaît aujourd'hui de la science. Et moi, je suis scientifique, y compris dans le domaine spirituel. Parce que c'est les lois. Les lois spirituelles, elles existent. Vous y croyez aux lois spirituelles ? Voilà. C'est pas du hasard. C'est que Dieu a créé des lois, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient surnaturelles ou naturelles. La frontière, c'est simplement la visibilité. Vous savez, notre visibilité, elle est très limitée. Puisque des chiens, ils entendent plus de sons que nous. Le domaine du visible, il est beaucoup plus étendu que ce que nos yeux peuvent percevoir. Ce qui fait qu'on fait des appareils infrarouges, ultraviolets, etc., qui vont plus loin pour découvrir des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc prétendre que la science sait tout, c'est une aberration totale, puisqu'on le sait que c'est pas possible. Il faut d'autres instruments. Et plus on découvre des instruments pour comprendre les lois, plus on peut faire des choses. Mais c'est un infini. On ne pourra jamais faire tous les instruments, parce qu'il y a tellement l'infiniment petit qu'on n'arrive plus. En dessous de l'atome, il y a encore des choses. Voyez-vous ? Et après, il y a des lois statistiques pour essayer de les découvrir. Et mon fils, qui a fait une école d'ingénieur à Grenoble, qui est la plus élevée au niveau de la physique, il avait des physiciens dans son... des derniers professeurs qu'il avait. Ils ont dit, écoutez, là, on est à la limite du spirituel et du physique. On ne sait plus. Donc, ils découvrent maintenant des lois. Ils ont essayé de découvrir des lois mathématiques qui essayaient d'introduire du spirituel dedans. Imaginez. Voilà. Mais c'est des gens qui sont complètement athées. Mais ils découvrent des choses qui sont à la frontière de ce qu'on ne peut plus traiter par les techniques scientifiques actuelles ou mathématiques. Tout ça pour revenir à notre intervention de Jésus, qui a dit que les commandements les plus importants sont de deux sortes. L'un qui est tourné vers Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et l'autre qui est tourné vers les hommes, tu qui lui es semblable. Et vous, l'homme, la femme, l'être humain a été créé semblable à Dieu. Avec une intelligence, avec une connaissance, avec un cœur, avec une compréhension comme Dieu, semblable à Dieu. Et ce deuxième commandement résume la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous sommes tournés, en tant que chrétiens, un vers Dieu et l'autre vers les hommes. Quand des chrétiens vont, ne sont pas dans cet équilibre de ces deux commandements, ils vont vers des extrêmes. Ils disjonctent. Et dans l'histoire de 2000 ans de chrétienté, on a vu justement tous ces extrêmes. L'un, c'est de spiritualiser les autres, les choses, donc de penser qu'à Dieu. Et là, on tombe dans le mysticisme. Vous avez entendu parler du mysticisme, des mystiques. Hein, l'Église catholique en connaît beaucoup. Hein, l'Église catholique connaît tout parce que c'est elle qui est la plus vieille. Hein, mais souvent, les églises évangéliques redécouvrent des choses qui sont découvertes depuis longtemps. On tombe dans du mysticisme. On mysticise tout. On spiritualise tout. On voit des esprits partout. On voit Dieu partout. Voilà. Or, c'est pas juste conformément à ce que Jésus a dit. Donc, la spiritualisation ne suffit pas. Il faut aussi se tourner vers les hommes. Mais se tourner vers les hommes sans être équilibré par le premier commandement, on tombe dans l'humanisme, on tombe dans le sécularisme, on tombe dans l'évangile social, on tombe dans le libéralisme. Et donc, ces deux tendances sont toujours en présence chez les chrétiens et dans le monde chrétien. Et ce qu'il faut, c'est tenir compte des deux et marcher dans les deux. Donc, c'est le sens aussi de ce que je vous enseigne en ce moment. Peut-être aujourd'hui, c'est le dernier message sur l'Église. Quelle est l'identité de l'Église ? L'identité de l'Église est semblable à l'identité de l'individu que nous sommes. Nous devons être tournés vers Dieu et vers les hommes. En tant que chrétiens, nous devons avoir cet équilibre. C'est pourquoi le dimanche, on se tourne vers Dieu, et dans la semaine, on se tourne vers les hommes, en tant que chrétiens. Donc on est engagé en tant que témoin pour témoigner du royaume. Et c'est le sens de ce que je vous enseigne en ce moment sur l'Église, que je vais continuer pour aller un peu plus loin, pour montrer que nous avons deux pôles d'attraction, un pôle vers le ciel et un pôle vers la terre. Donc ça s'appelle l'Église et le royaume. Le royaume, parce que vous en entendrez parler pas mal du royaume dans la nouvelle union d'Église où nous voulons aller, sont aussi tournés vers cette conception du royaume. Est-ce que ça marche? C'est bon? L'Église et le royaume. C'est le message que Jésus, c'est le premier message qu'il a donné au moment où il a commencé son ministère. Après Jean-Baptiste, qui d'ailleurs a tenu le même message, puisque Jean-Baptiste a ouvert la voie de Jésus. Jean-Baptiste, il disait au chapitre 3 de Matthieu, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu... » Lui, il disait des cieux, parce que Dieu, les Juifs n'avaient pas le droit de le prononcer. Donc, il parle de cieux, hein, parce que Matthieu s'adresse aux Juifs. Le royaume de Dieu est proche, c'est lui, voilà. Et Jésus, le chapitre suivant, on voit que Jésus a commencé, au verset 17, « Dès lors, Jésus commença à prêcher. » Et qu'est-ce qu'il dit ? « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Jean-Baptiste, Jésus, même message, même prédication, même conception du royaume. Or, l'Église qui est né à la Pentecôte, donc au moment où Jésus est parti, il a dit « Je ne vous laisserai pas tout seul, orphelin, je vous donnerai l'Esprit ». L'Esprit a initié l'Église. Donc l'Église est liée au royaume. Hein ? Mais de quelle manière ? Eh bien, la manière dont on explique les choses sur les principes du Nouveau Testament qu'on vient de lire, c'est que les Juifs, eux, se sont trompés lors de la venue de Jésus, parce qu'ils avaient une conception linéaire de l'histoire du salut de l'humanité. Ils pensaient que, à un moment donné, il y avait le siècle à venir. Le siècle, ça veut dire un temps, une durée, mais qui n'est pas limitée en nombre d'années, mais voilà. Donc le siècle, il y avait le siècle présent, qui était plein de soucis, plein de problèmes, plein de difficultés, avec des ennemis partout et tout ça. Il allait y avoir un siècle à venir, un autre temps qui allait venir, et qui allait marquer l'histoire. Et ça s'appelait le jour du Seigneur. Donc ils attendaient tous le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'était une attente qui était très forte dans le judaïsme au moment où Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, bien sûr, ils s'attendaient au jour du Seigneur, avec gloire, avec puissance, avec majesté, et ce roi qui allait venir allait les délivrer, bien sûr, premièrement des Romains, qui étaient une très forte opposition à leur vie sociale. Mais comme Jésus, poussé d'ailleurs par les disciples, et Judas en fait, il a trahi Jésus parce que il pensait, comme tous les disciples, que Jésus, à un moment donné, il allait sauter un plomb, quoi, il allait mettre les Romains dehors. Et comme ce temps n'est pas arrivé, il s'est impatienté, il a fait ce qu'il devait faire, bon, parce que c'était prévu. Mais parce qu'ils n'ont pas compris le sens de l'histoire. C'est important de comprendre le sens de l'histoire dans lequel nous sommes. Et donc, ce jour du Seigneur, il est venu différemment. Il est venu en deux étapes, et pas en une étape. Pourtant, dans Ésaïe, c'est très très bien écrit, mais il faut avoir le discernement pour le lire. Si on lit Ésaïe 53, on voit que c'était d'abord un Messie souffrant qui devait venir, et ensuite après un Messie glorieux. Donc, aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé, pour nous c'est facile d'interpréter maintenant, puisque Jésus est venu, mais lorsque Jésus s'est présenté aux Juifs, c'était pas connu. Eh bien, il y a un autre temps qui est le centre de l'histoire, qui n'est pas le jour du Seigneur de retour en gloire, mais c'est le jour du Seigneur pour nous délivrer du péché, qui est un problème de justice. Dieu ne peut pas faire entrer dans son royaume des gens qui sont remplis de péché. Ok ? Des gens qui désobéissent à ses lois, des gens qui ne suivent pas, eh bien, ce pourquoi ils sont faits. Voyez-vous ? C'est un peu comme les ingénieurs qui fabriquent des voitures. Vous prenez une voiture, une Clio, par exemple, et les ingénieurs, ils ont prévu deux sortes de moteurs, un moteur diesel et un moteur à essence. Vous avez le choix de cliquer pour choisir votre moteur. Si vous achetez une Clio avec du diesel, et vous allez à la pompe, vous mettez de l'essence, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas prévu pour. Donc vous aurez des problèmes. C'est pareil. Nous, qu'est-ce qui nous a fait ? C'est pas nous. C'est Dieu qui nous a fait. Donc il sait comment on doit fonctionner. Donc il a fait des lois. Si on rentre dans ces lois, c'est parfait. Si on fait comme nous, on pense que ça devrait marcher, on a des problèmes, c'est tout. Donc en rentrant dans ces lois, ça marche. Et Jésus a réglé ce problème du péché. Il a rétabli la personne humaine dans les droits et dans les lois qui sont celles que Dieu a prévues. Donc il y a un autre temps qui est venu avant ce jour du Seigneur en gloire. Il est venu Jésus pour traiter la question du péché et surtout détruire les œuvres du diable. Parce que c'est le diable qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons. Et il fallait régler ce problème. Et Jésus l'a fait parce que c'est le seul qui a pu résister au diable. Tout à l'heure, j'ai pu lire un passage que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que Jésus a détruit les œuvres du diable. Et aucun être humain ne peut le faire, parce qu'il n'a pas l'autorité pour le faire. Il n'a pas la cohérence de résister au diable comme Jésus l'a fait. Donc le point essentiel, et d'ailleurs les démons le savaient, parce que dans tout l'Ancien Testament, vous ne voyez pas trop des manifestations démoniaques. Et dès que Jésus arrive, il dit rien, les démons crient. Autour de lui, il crie. Les démons crient. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu est venu dans la personne de Jésus. Amen. Le royaume, ça s'appelle le Basiléa. Basiléa, ou Basileus, c'est le roi. Basiléa, c'est le royaume. Donc Jésus a prêché le royaume. C'est comme ça que c'est écrit dans le Nouveau Testament, en original, le Basiléa. Le royaume de Dieu. Et un autre royaume, qui est le royaume de ce monde. Le royaume de ce monde, c'est le Malkut. Malkut, en hébreu, c'est le royaume de ce monde. Et Jésus montre dans ses enseignements, et l'épître de Jean particulièrement, mais tous les apôtres en parlent, que ces deux royaumes sont en opposition. Jean, d'ailleurs, dira que celui qui aime le monde, il est en inimitié contre Dieu, parce que aimer le monde et aimer Dieu, aimer le royaume de Dieu, c'est incompatible. C'est incompatible. Vous voyez ? Et donc il faut bien séparer les choses. Donc il y a le Basiléa, qui est le royaume de Dieu, et le roi qui a été couronné, c'est Jésus sur ce royaume. Et donc, pour présenter bien les choses de cet axe du salut, il faut décaler le siècle à présent du siècle à venir, parce que la qualité de vie n'est pas la même. Dans le siècle présent, la qualité de vie, elle est mélangée entre le bien et le mal, entre la mort et la vie, entre des bonnes choses et des mauvaises choses. Le siècle à venir, c'est un siècle où la qualité de vie est totalement différente. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de difficultés, de conflits, de choses comme ça. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, dans son royaume, eh bien, c'est un royaume de paix, d'amour, de joie. C'est dans ce royaume que nous voulons vivre éternellement. Et aujourd'hui, nous pouvons goûter. Nous ne pouvons pas le vivre pleinement à cause de notre situation de la chair, comme la Bible l'appelle, c'est-à-dire de mélange, mais nous pouvons y goûter. Donc le siècle à venir, il existe, il a toujours existé, du commencement jusqu'à la fin, il est éternel, mais il nous est accessible en acceptant Jésus-Christ. Donc on le présente de cette manière-là, et l'Église est dans cette période de temps entre la venue de Jésus et son retour, et la parousie, c'est-à-dire le départ de l'Église qui reviendra sur la terre pour régner avec lui. Donc ce basiléa, ce royaume, il a deux effets. D'une part, il révèle le règne de Dieu beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant. Bien que Dieu a toujours régné, mais comme il est venu pour confronter le diable directement sur la terre, parce qu'il a pris des droits, parce que l'homme lui a donné les droits, eh bien Jésus est venu les reprendre pour l'humanité et les redonner, redonner le bâton de l'autorité à l'homme. Et il vous l'a donné à vous. Et la conséquence pratique de ce message ce matin, c'est que vous, demain matin, et déjà cet après-midi, vous devez prendre le bâton d'autorité que vous avez reçu, parce que Jésus vous l'a redonné sur les puissances de ténèbres, sur le mal, la mort, etc. Donc, révélation du règne de Dieu et expérimentation de ce règne dans le siècle présent. On l'expérimente. Goûtez à ce royaume. Bénéficiez de ce royaume. Guérissez les malades. Pas tous les malades, mais ceux que le Seigneur va vous indiquer. Et si vous prenez autorité, ils vont guérir. Si vous prenez autorité sur les morts, ils ressusciteront, etc. Et ça, c'est le travail de l'Église. Amen. C'est le témoignage de l'Église. Il y a deux formes d'église, deux formes de siècle, et ça amène deux formes d'assemblée. L'église est formée de deux assemblées, comme l'individu est formé de deux personnes, une personne tournée vers Dieu et une personne tournée vers la terre. Et les assemblées que nous formons, que nous avons comme conception dans l'église ici, mais heureusement nous ne sommes pas les seuls, mais qui permet de bien comprendre qui nous sommes, c'est que d'abord nous sommes une église qui est corps de Christ. Dans Matthieu 16, Jésus, il institue l'Église universelle en convoquant ses disciples et en disant à ses disciples, mais qui dit-on que je suis ? Et après, il dit à Pierre, qui dis-tu que je suis ? Et une fois que Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, c'est pas le Père, c'est pas toi, c'est le Père qui te l'a révélé. Et sur ces paroles, eh bien, j'établirai mon Église, sur cette déclaration, j'établirai mon Église, et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la puissance de l'Hadès, la puissance des ténèbres, la puissance du diable, ne pourra rien. Mais attention, c'est sur le corps de Christ, pas sur l'Église locale. C'est pour ça que si on confond les deux, on est dans la confusion. Donc l'Église, c'est mon Église. Jésus a dit, c'est sur mon Église. Le M-O-N est absolument indispensable. Il ne se retrouvera plus le mon Église dans Matthieu 18. Matthieu 18, c'est Jésus qui prend cet exemple. Jésus cite deux fois le mot Église. Pas trois fois, pas quatre fois, deux fois. La première, il dit, c'est mon Église, c'est celle qui est spirituelle, le corps de Christ, sur lequel le diable ne peut rien. Il est détruit, il ne peut rien faire. Okay ? Mais celle-là est invisible. Et celle qui est visible, c'est l'Église. L'Église avec un apostrophe. Et dans cette Église, il faut de la discipline. Et Jésus donne les règles de discipline. Il dit, si ton frère a péché, va le reprendre. Et s'il n'est pas d'accord, tu prends un deuxième. Et s'il n'est pas d'accord, tu le dis à l'Église. Et l'Église prend ses responsabilités. Voyez-vous, donc, il y a la notion de mon Église, corps de Christ, et l'Église, qui est l'Église sur la terre. Et c'est cette différence que nous faisons au travers de cette institution de l'Église que Jésus a donnée. Donc vous avez d'un côté le corps qui manifeste les relations, on voit bien que le doigt est relié au doigt. Si vous coincez un doigt dans la porte, vous allez crier. Tout le corps va être meurtri, alors que c'est juste le petit doigt. Des fois, c'est pas grand-chose, vous avez juste une petite épine. Et vous souffrez partout, vous pourriez juste souffrir là. Non, vous souffrez tout. Voyez-vous, parce que le corps, ça montre les relations. Okay. Alors que l'église locale, c'est une maison, c'est une famille. C'est une famille. C'est une famille. Regardez la famille de Maggie, bon, bah, elle est éclatée, elle va se recomposer, etc. Vous voyez, c'est différent d'un corps. Hein. On est associé pour un temps, et de toute façon, notre temps il est limité sur la Terre, donc à 100 ans, 110 ans pour les meilleurs. Voilà. Mais dans l'éternité, le corps il demeure tout le temps. Tout le temps. Nos relations ne changeront pas. Quand on ira auprès du Seigneur, on pourra parler avec Abraham, vous pourrez poser toutes les questions à Jonas, voilà, vous le retrouverez. Voilà, c'est formidable. Il n'y a pas de séparation. Hein. Donc il y a deux siècles, il y a deux formes d'assemblée. L'assemblée où il y a le règne de Dieu en permanence, c'est le siècle à venir, et l'assemblée où on expérimente le règne de Dieu dans l'Église, qui est le siècle présent, et qui est en contact avec le monde. Auquel nous devons témoigner, comme vous avez entendu le témoignage ce matin. Donc je vais très vite, puisque c'est déjà de la redite. Dans le siècle à venir, on s'y trouve par la communion spirituelle. Et c'est la scène qui représente cette communion spirituelle, puisque Jésus l'a instituée, et il est présent au milieu de nous, et nous sommes en communion avec lui. Donc c'est la communion spirituelle à Christ, par la nouvelle naissance, indispensable, Nicodème, Jean 3, la réception du Saint-Esprit, l'appartenance au corps de Christ ou Église universelle de Jésus-Christ. Ce qui fait que la personne, le croyant, qui est catholique, orthodoxe, protestant, araméen, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, dénominationnel, nous sommes tous dans le corps de Christ. Il n'y a aucune différence. On peut travailler avec n'importe qui dans le corps de Christ, voyez-vous. Des chrétiens qui n'ont pas compris ça, ils restent dans leur truc, voilà, ils s'attachent à leur dénomination. Non, ça n'a pas de sens. Le corps du Christ, il n'est pas dénominationnel. Ce corps-là, c'est une monarchie. Hein ? Tant pis pour les royalistes, s'il y en a dans la salle, je suis désolé, il fonctionne comme une monarchie. Parce qu'il y a un roi qui est parfait. Il n'est pas imparfait. Jésus-Christ est un roi parfait. Et il est un modèle de royauté, il est un modèle à suivre, il règne avec justice, il règne avec toutes les capacités d'un roi qu'on peut même pas imaginer tellement il est parfait. Donc c'est une monarchie et ça fonctionne selon les lois du royaume de Dieu. La congrégation, ce qu'on appelle la congrégation, c'est le corps visible local. Donc nous ce matin nous sommes assemblés en congrégation. C'est une assemblée religieuse, si vous voulez, mais qui désigne le terme de ce fonctionnement en relation avec Christ. C'est la partie visible du corps. Et elle est mélangée. Malheureusement, elle est mélangée. Dans le ciel, elle n'est pas mélangée, parce que Dieu connaît les siens. Mais ici, elle est mélangée, parce que la porte est ouverte. C'est un lieu public, n'importe qui peut rentrer. Et s'il n'est pas né de nouveau, il ne fait pas partie, mais il fait partie de la congrégation. Vous voyez, donc là, il faut faire un tri. Hein, et ça, c'est le rôle des responsables de savoir qui est qui. Pas toujours évident. Dans le siècle à venir, dans le siècle présent, pardon. Donc ça, c'est le siècle à venir. Dans le siècle présent, nous sommes réunis par la communion fraternelle, une communion humaine, des frères. Nous sommes des frères en Christ, mais des frères. Mais il y en a qui sont des frères. Dans la maçonnerie, des frères dans... Voilà, bon, ils s'entraident et tout ça. Moi, j'étais dans une école d'ingénieurs où on a une fraternité extraordinaire. En ce moment, toute la promotion, on était 120, toute la promotion, ils m'écrivent des mails tous les jours, ils vivent comme il y a 40 ans, quoi. Hein, comme quand ils vont partout ensemble, ils parcourent la planète, c'est incroyable. C'est comme si t'es 40 ans en arrière, quoi. Une fraternité incroyable. S'il y en a un qui n'a pas de boulot, l'autre, il y trouve un boulot. Voilà. Donc fraternité, oui, mais fraternité en Christ, c'est le rôle de l'Église. Et l'adhésion à l'Église locale, à ses valeurs, à ses lois. Que l'Église fonctionne avec des lois. Elle est sous la grâce, mais fonctionne avec des lois. Donc c'est une communauté de droits qui lui sont propres. L'association est la forme appropriée pour ce genre d'assemblée fraternelle. Ce n'est pas une imposition de l'État. Il se trouve que l'imposition de l'État correspond avec notre conception, mais c'est pas... D'ailleurs, ceux qui ont fait ces lois-là, c'est des protestants. Loi 1905, c'est les protestants qui l'ont fait au niveau de la France. Donc l'Église est invisible et visible à la fois, parce qu'elle appartient au siècle à venir et au siècle présent. Invisible en tant que corps de Christ, elle est une et indivisible. Il n'y a qu'un seul corps, il n'y a pas deux corps, il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'une seule Église. Et elle est visible en tant que maison, en tant que famille. Maison, c'est une famille avec un patrimoine. On a un patrimoine qui nous est légué et qu'on va transmettre. Elle est aussi nombreuse que l'ensemble des églises locales. Et il y a des millions. Donc voilà, là c'est pluriel. Chaque église-maison a deux fonctionnements simultanés. Un fonctionnement monarchique avec un roi, avec Christ comme souverain, et un fonctionnement associatif qui est holacratique. Hola, ça veut dire tous. Dire tous participent à cette église-là. Donc c'est tout à fait différent d'une monarchie. Voyez-vous. Et donc le fonctionnement, il faut bien comprendre dans quel fonctionnement on est. Moi, quand je suis père de mes enfants, j'ai un fonctionnement. Quand je suis pasteur de l'église, j'ai un fonctionnement. Quand je suis ancien de l'église, j'ai un autre fonctionnement. Donc il faut bien connaître son identité pour savoir comment ils font fonctionner. On ne fonctionne pas de la même manière. Parce que c'est des rôles et des fonctions différentes. Le premier, donc la première partie de l'église visible maison, c'est un fonctionnement en tant que corps, avec une tête. Et la préoccupation est l'ordre relationnel. C'est le culte rendu à Dieu au travers des personnes, des fidèles qui sont là. La deuxième, la maison, elle est semblable à une famille avec un gouvernement collégial. Et là, le gouvernement est collégial. Il n'est pas pyramidal, il est collégial, un collège. En effet, dans ce deuxième fonctionnement, il s'agit de gérer les biens de la maison. Et les biens, ce sont bien sûr les ressources matérielles, on l'a vu par les offrandes, mais c'est vous. C'est tous ceux, et y compris moi, qui sont dans l'Église. Nous sommes des biens, des ressources qu'il faut valoriser. Nous sommes appelés à valoriser les dons que nous avons reçus. Et ça, c'est l'enseignement de Luc 19:10, où Jésus, il explique que, dans cette parabole, qu'un homme de haute naissance est amené à aller loin pour chercher sa couronne et revenir, et en attendant, il confie ses biens à ses disciples. Et il leur donne des talents. Le problème, c'est quand il revient, il dit « Qu'est-ce que vous avez fait de vos talents ?» Et donc nous, si on a compris ça, eh bien nous sommes censés valoriser nos talents. Et les responsables de l'Église, leur premier rôle, et moi mon premier rôle, je suis conscient de ça, c'est que je dois valoriser vos talents, pas les miens, les vôtres. Et je suis investi dans cette mission de discerner vos talents et de vous encourager. Et tous les responsables sont censés faire ça. Ça c'est le rôle de l'Église association. La préoccupation est donc de l'ordre de gestion. Et il ne faut pas minimiser l'importance de la gestion, de l'administration des choses. Et plus on est excellent dans ces domaines, avec la grâce du Seigneur, et bien plus on va être efficace. Et plus le Seigneur va être content quand il va revenir. C'est super. Qu'est-ce que tu as fait de cette personne-là? Qu'est-ce que tu as fait de Rémi? Ben, c'est super. Waouh! Il est fantastique, il rayonne, il est plein de vie, il réussit dans la vie, il a monté l'échelle sociale pour me glorifier. Voilà, c'est ça, il doit dire ça de chacun de nous. Amen. Donc l'Église est une famille plurielle, à la fois une et plusieurs. Une parce qu'elle vit dans le siècle à venir, dans le corps de Christ. Elle est épouse, une épouse, un troupeau, un peuple, vous voyez, c'est toujours un. Et plusieurs, dans le siècle présent, ce sont des maisons locales. Ce sont les Ménonites, ce sont les Pentecôtistes, ce sont les catholiques, ce sont les orthodoxes. Voilà, c'est plusieurs. Voilà. Et chacun dans sa spécificité locale. Voilà, avec, bien sûr, ses limitations et ses défauts. Dans le siècle présent, il y a des défauts. Voilà, ne serait-ce que parce que vous êtes ici, voilà, il y a déjà des défauts. Donc il faut l'accepter. Il faut accepter que l'Église a des défauts, puisque nous, on a des défauts. Donc, pour reprendre le siècle à venir, le siècle présent, c'est l'axe du salut. Nous en découlons la compréhension de l'Église. L'Église est invisible, d'une part, et elle est visible. Invisible en tant que corps de Christ, et ce n'est que là que Satan est vaincu. Attention, hein. Le combat spirituel ne se fait pas dans l'Église locale association. Il se fait dans l'Église locale congrégation, parce qu'il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de piétiner Satan. Il y a des chrétiens dans le combat spirituel, ils disent « Je piétine Satan !» Waouh ! Ça se fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais là je cours moi. Je dis « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en général, Léane Payne, je ne sais pas si vous la connaissez, à chaque fois qu'elle allait dans les... parce qu'elle prêchait que dans les universités, de très haut niveau, et une fois les étudiants, ils ont commencé comme ça à faire du combat spirituel. Elle dit « C'était l'horreur. Toute la semaine, il n'y a que des problèmes, il y a des truc dingue, quoi, qu'il n'a jamais vu. Ce qu'il ne comprenait pas. Le combat spirituel, quand on ne le comprend pas, eh bien, on fait n'importe quoi et on se tape sur la tête. Soi-même, on se tape sur la tête. Donc, il faut avoir une compréhension que dans le corps de Christ, uniquement, il y a la victoire sur Satan. Dans l'Église locale, qui est visible, la constitution est de cette manière-là, que je vais très rapidement vous décrire, pour bien que vous compreniez ce que c'est qu'une Église locale. Dans l'Église locale, il y a d'abord Christ. Sans Christ, l'Église locale n'existe pas. Christ, le roi, le basileus, le roi qui règne dans le ciel et sur la terre et dans tout l'univers. Okay ? Sauf qu'il y en a qui le reconnaissent, d'autres qui ne le reconnaissent pas. Mais il règne. Donc Christ, le roi, et l'Église est censée le reconnaître. Donc elle tourne ses yeux vers Christ. Amen. Qui est ressuscité d'entre les morts. Qui a vaincu la puissance. C'est ça, la puissance du christianisme. Contre toutes les autres religions, c'est qu'il n'y a qu'un seul homme qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus. Et quand les Grecs, qui étaient, vous ne pouvez pas trouver plus que les Grecs, soucieux de découvrir toutes les religions, ils étaient ouverts à tout. L'agora, c'était fait pour ça. Et quand Paul est passé, vous savez, téléphone arabe, ça marchait. Ouais, il y a un gars là-haut, c'est une nouvelle religion, on n'a jamais entendu parler de ça. Et vous savez ce qu'ils s'imaginaient ? Parce que vous savez, il y a ce qu'on entend puis ce qu'on dit. Ils s'imaginaient, quand vous regardez le texte, hein, ils s'imaginaient que Paul présentait une nouvelle religion. Et dans toutes les religions, toutes, je dis toutes les religions, il y a toujours un couple de dieux, un dieu et une déesse. Pourquoi ? Parce que la divinité est imaginée à l'image de l'homme. Donc on transfère notre compréhension sur la divinité. Donc il y a un homme, une femme. Il y a un dieu, une déesse. Okay. Donc, ils ont dit, ben, il faut qu'on découvre ce que c'est que ça, c'est Dieu, c'est déesse. On va essayer de l'écouter. Ils ont écouté Paul, et Paul a commencé à parler. Jésus, tout ça, il est ressuscité, la résurrection. La résurrection, en grec, ils pensaient que c'était le nom de sa déesse, le nom de la déesse du Dieu Jésus. Jésus, il avait une déesse, vous voyez ? C'est ça qu'ils ont compris. Donc ils ont écouté au début, et vous voyez le texte, paf, Paul il raconte, puis à un moment donné, il commence à sauter un plomb. Quel moment ils sautent ? Ils ont dit arrête, c'est fini. Il commence à sauter un plomb en réalisant que ce que Paul est en train de dire, c'était pas une religion habituelle avec un dieu et une déesse, mais que la résurrection, c'était la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que Jésus est sorti du tombeau et il est revenu avec un nouveau corps. Et là, c'était impossible. Là, ils ont dit non. Là, c'est impossible, impossible. Cette religion n'est pas possible parce que justement, c'est tout ce qu'on veut éviter. Ils étaient dans du mysticisme, les Grecs. C'était les idées. C'était sortir du corps, parce que le corps, il n'a que des imperfections. Donc revenir dans le corps, c'était une aberration totale pour les Grecs. Et c'est pour ça que la religion chrétienne, c'est la seule qui prêche ça. La seule au monde, de toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est la seule particularité de ce siècle à venir dans lequel nous aurons un corps. Nous aurons un corps. Okay ? Mais c'est un corps parfait. Un corps comme Jésus avait. Comme Jésus a reçu. Donc, la congrégation, donc cette partie de l'assemblée, nous sommes toujours les mêmes personnes, mais nous sommes dans la congrégation. Cette congrégation reconnaît Christ comme étant le roi. Le roi sur la congrégation. Donc on reconnaît le roi. C'est pour ça qu'on chante les chants le matin où Dieu règne, où Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Okay ? On chante ces choses pour déclarer que nous y croyons. Vous y croyez ? Voilà. Donc c'est l'assemblée des fidèles à Jésus-Christ. Roi souverain, le Basiléa, le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a prêché et c'est ce que Jésus est venu faire. La deuxième élément de ce que nous sommes, c'est que nous sommes tournés vers le monde. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Où ça ? Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Puisque nous croyons que c'est un roi qui règne sur tout l'univers. Il n'y a aucune exception. aucun être humain, aucun animal, aucun rien du tout n'est en dehors de ce règne. Mais il faut le reconnaître et il faut témoigner. C'est ce que nous avons fait, nous avons témoigné ce matin de cette fidélité du Seigneur. Et cette partie-là s'appelle Église Association. Association parce que nous sommes associés volontairement. Il y a des gens qui restent dans la congrégation au maximum toute leur vie. Bon, je ne crois pas que ça existe, mais bon, pourquoi pas. Ça peut exister toute leur vie. Dire qu'ils viennent le dimanche et voilà, ils louent le Seigneur et tout ça, c'est bien. Mais ça, c'est qu'une partie des choses. Ça, c'est aimer Dieu, mais il faut aussi aimer son prochain. Vous voyez, donc cet équilibre entre les deux. Et là, nous sommes témoins de la puissance de Dieu dans le monde, au travers du règne de Dieu qui passe par nous, en tant que témoins. Donc nous sommes associés à une aventure merveilleuse, extraordinaire, qui est de valoriser les talents. Nous sommes supposés valoriser les talents, les uns, les autres, et nos talents aussi, et la talent de l'Église, communément, qui est une synergie de talents. Donc c'est l'assemblée des fidèles à l'Église locale. Le premier, l'assemblée des fidèles à Jésus-Christ. Et là, c'est l'assemblée des fidèles à l'Église locale qui est souveraine. Souveraine parce qu'elle doit se démarquer du monde. Elle ne doit pas se mélanger au monde. C'est pour ça que la séparation Église-État, c'est la seule chose qui était possible pour que l'Église existe. Constantin, en l'an 300 et quelques, 312 je crois, il a déclaré que la religion chrétienne était la religion de l'État. Et c'était la catastrophe pour le christianisme. C'était une catastrophe. Effectivement, juste quelques années avant, les chrétiens, pour beaucoup, terminaient dans les arènes face aux lions, aux gladiateurs, etc. Donc pour eux, c'était un soulagement. Mais par contre, l'Église a été détruite à cause de cette déclaration de l'union entre l'Église et l'État-nation. Et c'est dans les années donc 1848 que l'Église évangélique s'est levée, et l'Église libre de Melun, par exemple, c'est une Église réformée qui a dit non, on veut séparer de l'État. Parce que l'État a toujours instrumentalisé l'Église. Et Napoléon Ier, qui était un fin stratège, qui était contre le pape, mais il a remis les curés dans les campagnes, alors que les révolutionnaires l'avaient enlevé. Il savait qu'il fallait des curés pour que les gens puissent avoir une religion et qu'il y ait un contrôle, que l'État puisse contrôler. Et en 1848, l'Église évangélique a dit non, niet, séparation. Et c'est un baptiste à Rhode Island aux États-Unis, qui a fondé la première État qui était totalement séparation entre Église et État, qui est un modèle encore, si vous voulez vous intéresser à cette histoire, elle est extraordinaire, les années 1700 et quelques. Donc, Église congrégation, Église association. Mais on sait très bien que gérer une difficulté comme ça entre deux siècles, entre deux types de fonctionnement, l'un monarchique, l'autre holacratique, eh bien, n'est pas possible, c'est pas un gouvernement. Donc il faut un gouvernement. Dans tout groupe humain, il faut quelqu'un qui gouverne, donc qui représente le groupe et qui le gouverne. Et donc ça, c'est la gouvernance. Et cette gouvernance, ce sont des représentants des deux assemblées qui gouvernent selon une économie. Économie, ça vient de écos, c'est la maison, et nomie, c'est la loi. Donc la loi de la maison. Il faut une loi de la maison. Et cette loi de la maison, c'est la loi qui est supposée gérer une église locale. Et cette loi doit être connue de tous. Et ceux qui rentrent dans l'église type association, on prend le temps, et c'est ce qu'on va faire à la rentrée, d'expliquer ces lois. Et ces lois découlent des lois du royaume. Et c'est ceux qui gouvernent, de manière collégiale, je ne développe pas ici la nature collégiale, mais en tout cas, elle est quadrangulaire, où il y a cette séparation des pouvoirs, de manière à ce qu'il y ait une gouvernance collégiale. Et cette gouvernance collégiale doit prendre en compte toutes ces complexités, qui en même temps sont très simples, mais qui ont des rôles de pouvoir et de gouvernance, où le monde ne doit pas gérer l'Église, mais où c'est l'Église qui doit dominer sur tout cela. Voilà. Donc, vous aurez ça à la rentrée de manière plus détaillée, Quand on rentrera dans le détail des offices, parce que les offices, ce sont des charges royales qui nous sont données, donc des offices sacerdotaux, des offices de gestion, des offices, différents offices politiques aussi. Donc l'État, c'est un gouvernement politique, et il faut établir la politique de cette maison pour qu'elle fonctionne selon ces deux régimes qui, suivant que c'est du combat spirituel ou l'autorité de la parole, ou les sacrements, voilà, ça c'est un sacrement parce que Jésus l'a institué, le baptême c'est un sacrement, c'est-à-dire que ça nous met en relation avec Jésus directement. Donc toutes ces choses doivent être bien comprises, bien vécues et respectées. Et la profanation, c'est justement quand on rend profane les choses sacrées, eh bien elles n'ont plus de valeur et elles nous enlèvent notre identité. On ne connaît plus l'identité. Ce qui fait qu'on devient plus humaniste, parce qu'on n'a plus le sacrement. D'un autre côté, si on mystifie ou mysticise le sacramentel, eh bien, on décolle de la réalité. Les gens disent « Waouh, il a décollé, le gars, ou la fille. Bon. » Voilà. Donc, si on ne veut pas décoller, ben, il faut rester collé. Et si on est trop collé, eh bien, on ne décolle plus. Donc, voilà, il faut les deux. Moi, l'exemple parfait que j'ai connu, c'est John Wimber. John Wimber, c'est incroyable, dans les années 90, il y a mon responsable de l'époque, Yves Cournaz, m'a dit, tiens, je peux pas y aller, je te donne un ticket pour l'Angleterre. Il y a un gars qui vient, il fait plus que rallonger les jambes, parce qu'à l'époque, tout le monde rallongeait les jambes, voilà, enfin, les prophètes, tout ça. Donc il a dit, voilà, je te donne ça, avec ton épouse, et on est allé. On était scotchés, waouh, on n'a jamais vu ça. Un gars qui voit dans le spirituel, mais comme vous voyez ça, lui voit dans le spirituel. Il voit écrit des choses qui apparaissent sur la tête des gens, il voyait derrière, il lisait carrément, voilà, le Seigneur nous dit ça, voilà, il lisait comme ça, en grand comme ça, il dit, ouais, c'est écrit en lettres non regardées, vous ne voyez rien, bon. Voilà, mais c'était un don spirituel. Et il le faisait naturellement, il ne faisait pas spirituellement. Il avait horreur des gens qui priaient dans l'église en disant « Oh Seigneur !» Et vous dites ça quand vous êtes à table ? Vous dites « Passe-moi le sel !» Vous dites pas « Passe-moi le sel !» Vous dites « Passe-moi le sel !» Voilà, vous êtes naturel, vous voyez ? Donc dans l'église, il faut que les choses soient naturellement surnaturelles. Il faut que les choses apparaissent sans que vous fassiez des déclarations de machin et tout ça. Et là, j'étais scotché, je dis « Waouh !» Mais pendant une heure, tenez-vous bien, pendant une heure, il prêchait sur le royaume. Et à chaque fois, et quand il avait prêché sur le royaume, hop, les miracles, vous viviez les miracles comme vous vivez, voilà, autre chose, quoi. C'est ça que devrait être l'Église. Vivre naturellement dans le surnaturel. Et vivre surnaturellement dans le naturel. Alors, ça vous dit ? Ça vous branche ? C'est ça le royaume. C'est soit l'Église. Amen. Alors que l'Église vive et que nous puissions voir ces choses. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu n'as pas changé. C'est nous qui, souvent, sommes durs à la détente parce que nous comprenons les choses à notre manière. Mais Seigneur, tu remets les choses en place dans ces derniers temps pour les rétablir afin que nous puissions être des témoins de ton royaume dans ce monde. Nous te prions au nom de Jésus. Amen, amen. J'invite les personnes qui sont désignées.